Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Canciel. Au micro, Yves Bastide pour l'émission « Ça rime à quoi ?»
Vous faire retrouver un poète peut-être un peu oublié aujourd'hui, Blaise Sandra. Il est né en 1887, il est mort en 1961, il est né en Suisse, il est mort à Paris. Et en 1913, il fait publier un poème qui allait marquer durablement la littérature française. La prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France. En ce temps-là, j'étais en mon adolescence. J'avais à peine 16 ans et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à 16 000 lieues du lieu de ma naissance. J'étais à Moscou, dans la ville des 1003 clochers et des 7 gares. Je n'avais passé des 7 gares et des 1003 tours, car alors, mon adolescence était si ardente et si folle que mon cœur, tour à tour, brûlait comme le temple d'Éphèse ou comme la place rouge de Moscou quand le soleil se couche. Et mes yeux éclairés des voies anciennes, j'étais déjà si mauvais poète que je ne savais pas aller jusqu'au bout. Le Kremlin était comme un immense gâteau tartare croustillé d'or, avec les grandes amandes des cathédrales toutes blanches et l'or mielleux des cloches. Un vieux moine me lisait la légende de Novgorod. J'avais soif et je déchiffrais des caractères cunéiformes, puis tout à coup, les pigeons du Saint-Esprit s'envolaient sur la place. Et mes mains s'envolaient aussi avec des bruissements d'albatros. Et ceci, c'était les dernières réminiscences du dernier jour, du tout dernier voyage et de la mer. Pourtant, j'étais fort mauvais poète, je ne savais pas aller jusqu'au bout, j'avais faim, et tous les jours, et toutes les femmes dans les cafés, et tous les verres, j'aurais voulu les boire et les casser, et toutes les vitrines, et toutes les grues, et toutes les maisons, et toutes les vies, et toutes les roues des fiacres qui tournaient en tourbillon sur les mauvais pavés. J'aurais voulu les plonger dans une fournaise de glaive, et j'aurais voulu broyer tous les os, et arracher toutes les langues, et liquifier tous ces grands corps étranges et nus sous les vêtements qui m'affolent. Je présentais la venue du grand Christ rouge de la Révolution russe et le soleil était une mauvaise plaie qui s'ouvrait comme un brasier. En ce temps-là, j'étais en mon adolescence, j'avais à peine 16 ans et je ne me souvenais déjà plus de ma naissance et je n'avais pas assez des tours et des gares que constellaient mes yeux en Sibérie, tournaient le canon, c'était la guerre, la faim, le froid, la peste, le choléra et les eaux limoneuses de l'amour charriées des millions de charognes. Dans toutes les gares, je voyais partir tous les derniers trains, personne ne pouvait plus partir quand on ne délivrait plus de billets et les soldats qui s'en allaient auraient bien voulu rester. Un vieux moine chantait la légende de Novgorod. Moi, le mauvais poète qui ne voulait aller nulle part, je pouvais aller partout. Et aussi les marchands avaient encore assez d'argent pour aller tenter faire fortune. Leur train partait tous les vendredis matins. On disait qu'il y avait beaucoup de morts. L'un emportait 100 caisses de réveil et de coucou de la forêt noire, un autre des boîtes à chapeaux, des cylindres et un assortiment de tire-bouchons de Sheffield. Un autre des cercueils de Malmö remplis de boîtes de conserve et de sardines à l'huile. puis il y avait beaucoup de femmes. Des femmes, des entrechambres à louer qui pouvaient aussi servir des cercueils. Elles étaient toutes patientées. On disait qu'il y avait beaucoup de morts là-bas. Et le voyager à prix réduit avait tout un compte courant à la banque. Et or, un vendredi matin, ce fut aussi mon tour. On était en décembre et je partis moi aussi pour accompagner le voyageur en bijouterie qui s'en rendait à Carbine. Nous avions 2 coupés dans l'express et 34 coffres de joaillerie de la Camelot Melong, allemande, made in Germany. Il m'avait habillé de neuf et en ce moment, dans le train, j'avais perdu un bouton. Je m'en souviens. J'y ai souvent pensé depuis. Je couchais sur les coffres, j'étais tout heureux de pouvoir jouer avec le Browning nickelé qu'il m'avait aussi donné. J'étais très heureux, insouciant, je croyais jouer aux brigands. Nous avions volé le trésor de Golconde et nous allions, grâce au transsibérien, le cacher de l'autre côté du monde. Je devais le défendre contre les voleurs de l'Oural qui avaient attaqué les saltimbanques de Jules Verne, contre les Kongouzes, les boxeurs de Chine et les s'enragés petits mongols du Grand Lama, Ali Baba et les 40 voleurs et les pidèles du terrible vieux de la montagne, et surtout contre les plus modernes, les rats d'hôtel et les spécialistes des express internationaux. Et pourtant, j'étais triste comme un enfant. Les rythmes du train, la moelle chemin de fer des psychiatres américains, le bruit des portes, des voix, des essieux grinçant sur les rails congelés, le ferlin d'or de mon avenir, mon Browning, le piano, les jurons, les joueurs de cartes dans le compartiment d'à côté, les patentes, présence de Jeanne, l'homme aux lunettes bleues qui se promenait nerveusement dans le couloir, qui me regardait en passant, froissi de femme, et le sifflement de la vapeur et le bruit éternel des roues en folie dans les ornières du ciel, les vides sont givrés, pas de nature, et derrière, les plaines sibériennes, le ciel bas et les grandes ombres des taciturnes qui montent et qui descendent. Je suis couché dans un plaid bariolé comme ma vie. Et ma vie ne me tient pas plus chaud que ce châle écossais et l'Europe, tout entière aperçue au coupe-vent d'un express, à toute vapeur, n'est pas plus riche que ma vie. Ma pauvre vie. Ce châle et filoché sur des coffres remplis d'or avec lesquels je roule, que je rêve, que je fume. Et la seule flamme de l'univers est une pauvre pensée. Du fond de mon cœur, des larmes me viennent et je pense, amour à ma maîtresse, elle n'est qu'une enfant que je trouvais ainsi pâle, immaculée au fond d'un bordel. Ce n'est qu'une enfant blonde, rieuse et triste, elle ne sourit pas, ne pleure jamais. Mais au fond de ses yeux, quand elle vous oublie à se boire, tremble un doux lys d'argent, la fleur du poète. Elle est douce et muette, sans aucun reproche, avec un long tressaillement à votre approche, mais quand moi je lui viens de ci, de là, de fait, elle fait un pas, puis ferme les yeux et fait un pas, car elle est mon amour. Et les autres femmes n'ont que des robes d'or sur de grands corps de flammes. Ma pauvre amie est si esselée, elle est toute nue, n'a pas de corps, elle est trop pauvre, elle n'est qu'une fleur candide, fluette. La fleur du poète, un pauvre lys d'argent, tout froid, tout seul, et déjà si fané que les larmes viennent si je pense à son cœur. Et cette nuit est pareille à 100 000 autres quand un train file dans la nuit. Les comètes tombent et que l'homme et la femme, même jeunes, s'amusent à faire l'amour. Le ciel est comme la tente déchirée d'un cirque pauvre dans un petit village de pêcheurs des flancs en Flandre. Le soleil est un fumeux quinqué tout au haut d'un trapèze. Une femme fait la lune. La clarinette, le piston. Une flûte aigre et un mauvais tambour, et voici mon berceau, mon berceau. Il était toujours près du piano quand ma mère, comme Madame Bovary, jouait les sonates de Beethoven. J'ai passé mon enfance dans les jardins suspendus de Babylone et les cols buissonnières dans les gares devant les trains en partance. Maintenant, j'ai fait courir tous les trains derrière moi, Bâle, Tombouctou, j'ai aussi joué aux courses à Auteuil, à Longchamp, Paris, New York. Maintenant, j'ai fait courir tous les trains tout le long de ma vie, Madrid, Stockholm, et j'ai perdu tous mes paris. Il n'y a plus que la Patagonie. La Patagonie qui convienne à mon immense tristesse. La Patagonie est un voyage dans les mers du Sud. Je suis en route. J'ai toujours été en route. Je suis en route avec la petite Jeanne de France. Le train fait un saut périlleux et retombe sur toutes ses roues. Le train retombe sur ses roues. Le train retombe toujours sur toutes ses rues. Blaise dit, sommes-nous bien loin de Montmartre ? Nous sommes loin, Jeanne. Tu roules depuis 7 jours. Tu es loin de Montmartre, de la butte qui t'a nourri, du Sacré-Cœur contre lequel tu t'es blotti. Paris a disparu et son énorme flambée. Il n'y a plus que des cendres. Continue la pluie qui tombe, la tourbe qui se gonfle, la Sibérie qui tourne, les lourdes nappes de neige qui remontent et le grelot de la folie qui grelotte comme un dernier désir dans l'air bleui. Le train palpite au cœur des horizons plombés et ton chagrin ricane. Dis, Blaise, sommes-nous bien loin de Montmartre ? Les inquiétudes, oublie les inquiétudes. Toutes les gares lézardées obliques sur la route, les fuites téléphoniques auxquelles elles pendent, les poteaux grimaçants qui gesticulent et les étranglent, le monde s'étire, s'allonge, se retire comme un harmonica qu'une main sadique tourmente. Dans les déchirures du ciel, les locomotives en furie s'enfuient, et dans les trous, les roues vertigineuses, les bouches, les voix, et les chiens du malheur qui aboient nos trousses, les démons sont déchaînés, ferraillent tout un faux accord. Le brom, ron, ron des roues, choc, rebondissement, nous sommes un orage sous le crâne d'un sourd. Dis, Blaise, sommes-nous bien loin de Montmartre ? Mais oui, tu m'énerves, tu le sais bien, nous sommes bien loin de la folie surchauffée, bug dans la locomotive, la peste de choléra se lève comme les braises ardentes sur notre route, nous disparaissons dans la guerre en plein, dans un tunnel. La faim, la putain se cramponne aux nuages en débandade et fiante des batailles en tapuant de mort. Fais comme elle, fais ton métier. Dis, Blaise, sommes-nous bien loin de Montmartre ? Oui, nous le sommes, tous les boucs émissaires ont crevé dans ce désert. Ce n'est qu'une partie de la prose du stress sibérien, mais je vous remercie de m'avoir écouté.